Deutsche Welle. Pulsation.
Ken Bogoul, la grande dame de la littérature sénégalaise, est notre invitée aujourd'hui. Dans ce magazine, il sera aussi question d'inclusion et de la disparition d'un grand cinéaste burkinabé. Bonjour à toutes et à tous, c'est Hodgens Bittel au micro. Vous êtes prêts? Ça va pulser!
Le saviez-vous?
Certains sujets, pourtant importants, sont parfois oubliés ou ignorés par les médias. La radio publique allemande Deutschlandfunk a présenté hier sa liste annuelle des thèmes importants absents dans l'actualité. Et en première place arrive l'inclusion des personnes handicapées dans le monde du travail. Mais l'inclusion, qu'est-ce que c'est exactement ? Quand on parle d'inclusion sociale, on désigne les efforts pour que tous les individus, enfants comme adultes, puissent participer à la société en tant que membres valorisés et respectés. Une société inclusive s'efforce donc à réduire les inégalités et à ne pas exclure certaines franges de la population, comme les plus défavorisés, les migrants ou les handicapés par exemple. En ce qui concerne les personnes handicapées, les Nations Unies ont adopté en 2006 une convention relative à leurs droits. Le texte met l'accent sur l'inclusion et reconnaît ces personnes comme des citoyens à part entière, qui ont les mêmes droits et libertés que tout autre individu. L'objectif est d'inclure les handicapés dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels, de leur donner accès sans restriction aux services de la santé et à la justice, de leur permettre de participer à la vie culturelle et politique. Le principe d'inclusion, ce n'est pas de gommer les différences, mais d'adapter l'environnement social pour accueillir tous les individus en tenant compte des spécificités de chacun. L'écrivaine sénégalaise Ken Bogoul, de son vrai nom Marietou Mbaye Biléoma, est l'auteur de nombreux romans au succès international. Mais seulement deux d'entre eux ont jusqu'à présent été traduits en allemand. Tout d'abord, son premier livre, « Le Baobab fou », et plus récemment, « Riwan » ou « Le chemin de sable ». C'est ce dernier que Ken Bogoul est venu présenter le mois dernier en Allemagne, lors de lectures à Bonn et à Francfort. Le récit, situé dans les années 1980 au Sénégal, est en grande partie autobiographique. Il évoque la vie d'une femme qui devient la 28e épouse d'un puissant marabout dans un village reculé. Une expérience qui lui permet de retrouver une certaine paix intérieure et de renouer avec les traditions de son pays après plusieurs années tumultueuses passées en Europe et un retour très difficile au pays. Riwan ou Le chemin de sable est le dernier volet d'une trilogie qui comprend aussi les livres Le Baobab fou et Cendre et braise et qui reflète la vie de l'écrivaine. Ken Bogoul nous en dit plus.
Ces trois livres, j'avais besoin de les écrire, d'évacuer tout ça de moi. Donc c'était une nécessité, mais ni envie, ni désir, ni aucune autre prétention. Je devais.
Donc pour faire sortir des choses que vous avez vécues, des choses difficiles, l'écriture c'était une sorte de thérapie, on pourrait dire.
Oui, ça c'est connu. L'écriture thérapeutique dans l'autobiographie de Ken Bogoul, ça c'est un sujet que les étudiants traitent, que les critiquent, ça c'était ça. Parce que j'ai commencé par ça, par la thérapie, l'évacuation, mais pas de prétention ni de désir. C'était simplement une question de nécessité de vie ou de mort.
Riwan ou Le chemin de sable était paru en français en 1999. Il aura fallu attendre plus de 15 ans pour qu'il soit traduit en allemand, mais c'est le cas à présent. Il est traduit en allemand, vous venez le présenter en Allemagne. Alors, ça vous fait plaisir d'abord aussi que ce livre-là soit accessible à un nouveau public ?
Pas tellement plaisir, c'est bien, mais pas plus, parce que je me dis, c'est une trilogie. On a traduit Le Baobab fou en 1991, alors que Le Baobab fou est sorti en septembre 82. Il était traduit en allemand. On a traduit Riwan par Afrique à venir. C'est maintenant que Union Verlag veut sortir ça en poche. Et je me dis, le livre majeur qui fait le lien entre les deux n'a pas été traduit. Cendre et braise. Bon, on peut lire Riwan et comprendre, mais l'origine de retour aux sources, dans ses origines absolues, c'est Cendre et braise qui l'explique. Quand je vivais en France et tout ça là, et que j'ai été objectisée comme femme, plus le racisme en même temps, plus la violence domestique, Mais ça, c'est tellement important, ce livre. Donc, je me dis qu'ils aient traduit Le Barbe Fou, Eriwan, c'est bien, mais le lien entre les deux n'a pas été traduit. Donc, ça fait une petite frustration, quoi. Parce qu'on saute de là à là. Et les gens disent, mais comment vous avez vécu comme ça? Et puis, tout d'un coup, vous allez dans votre village, vous êtes avec un vieux marabout, un serigne. Mais il fallait lire. Donc, ça me reste toujours que Sandre Brez ne soit pas traduit en allemand.
Donc on espère que la traduction aura lieu. Pour revenir à Riwan, quelle est un petit peu la réaction des lecteurs en Allemagne? Est-ce que vous avez eu des échos? Parce que le livre présente des idées sur la polygamie notamment, parce qu'on décrit la vie de ce serigne avec ses nombreuses femmes, plus d'une vingtaine. Alors ça peut étonner parfois le public. Comment est-ce qu'ils réagissent les gens à ça ici?
Non, je pense que ce que j'aime en Allemagne, en tout cas, pas directement, peut-être qu'ils ont fait des commentaires ailleurs, mais les commentaires que j'ai eu avec les gens, l'Allemagne, c'est différent de pays comme l'Espagne ou l'Italie, ou un tempérament de femme, tout de suite, on dit polygamie tout de suite, mais ça peut expliquer la situation des femmes dans ces pays latins comme en Espagne ou comme en Italie. Il y a eu des réactions, c'est quoi? Pourquoi la polygamie? Mais pour les gens, quand ils essaient de comprendre, enfin même pas de comprendre, il n'y a rien à comprendre. C'est une question de notre culture, de nos réalités. Moi, j'ai fait un témoignage parce que j'ai pu, par le serigne, connaître que ces femmes vivaient comme ça, parce que moi, je vivais comme une occidentale. Donc, pour moi, c'était une découverte. Et puis, j'avais tiré beaucoup de bénéfices à comprendre la mentalité des femmes qu'avant, je ne connaissais pas, parce que moi, mes références étaient toujours Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, etc. Moi, j'étais dans ces trucs-là. Et tout d'un coup, je découvre un univers à plus de 30 ans. Une Sénégalaise incroyable. Donc, je voulais témoigner qu'il ne faut pas aussi condamner non seulement les cultures des autres gens. Il faut dire, ah tiens, ça se passe comme ça. S'ouvrir que c'est possible, puisque c'est possible chez nous. Et il y a toujours la polygamie chez nous. Peut-être il y a moins les serignes. Les serignes et les femmes qu'ils prenaient sous leur protection. Et la polygamie, elle est au Sénégal. Les jeunes, les nouvelles générations sont dans des ménages polygamiques. Parce qu'elles ont envie, parce qu'elles s'en fichent, parce qu'elles ont leur vie, elles sont occupées. Il y a la polygamie, il y a des gens qui ne sont pas mariés, il y a beaucoup de divorces. Par exemple, beaucoup en Afrique de l'Ouest et en Afrique subsaharienne, et même un peu partout, même en Afrique du Nord, les femmes divorcent beaucoup, préfèrent vivre seules, chefs de famille avec leurs enfants, parce qu'elles travaillent, elles gagnent de l'argent, elles sont autonomes. Pour le moment, ce n'est pas notre questionnement, c'est surtout là, on n'a pas du tout le temps. Donc, il ne faut plus poser le problème des hommes et des femmes, il faut poser le problème de l'épanouissement des femmes, de la réalisation de leur vie, et surtout de leur autonomie financière. C'est très, très, très important.
Au-delà de la question de la condition de la femme et de la polygamie, le roman Henri Wan ou le chemin de sable aborde beaucoup aussi des questions d'identité. Alors, surtout pour la narratrice, un conflit entre l'éducation qu'elle a eue, les expériences occidentales qu'elle a eues, et puis les traditions du pays qui lui avaient été volées un petit peu.
Oui, notre culture. Parce que pendant la période coloniale, on avait une éducation pour les gens de mon âge, hein. Les Gaulois, la littérature française, la musique, la culture, les paysages, la rédaction, les auteurs, on n'était que dans ça. Donc c'est cette forme d'aliénation, forcément, pour les gens de ma génération, ça a posé quand même beaucoup de problèmes pour savoir qui on est exactement. Ce que j'étais à l'époque aliénée, ce que je suis devenue, ce n'est pas pareil. Donc je me suis désaliénée, mais pour ça il fallait que je retourne aux sources absolues.
Et pour les jeunes d'aujourd'hui, il y en a beaucoup donc, qui veulent partir de chez eux, qui veulent partir vers l'Europe notamment, ou en tout cas vers d'autres pays. Est-ce qu'il y a toujours un danger de perdre son identité si on va trop loin, si on oublie ses racines?
Ce n'est plus question d'identité. Les jeunes qui partent sont nés il y a 20 ans. Ils n'ont pas de problème d'aliénation. La plupart d'entre eux, beaucoup ne sont même pas éduqués, ils n'ont même pas été à l'école. parce que notre école, nos écoles en Afrique, les grèves, les années blanches, faut avoir les moyens pour envoyer ses enfants dans les écoles privées, c'est compliqué, etc. C'est des jeunes sans formation, sans emploi, qui veulent aller en Europe, parce que l'image que l'Europe nous envoie à travers les médias, il y a à manger, il y a à travailler. Donc on nous renvoie que des images de surproduction, de surconsommation, c'est des problèmes économiques, c'est des problèmes de survie, de problèmes de mal-être aussi, problèmes de manque de perspective, c'est-à-dire on ne voit même pas le lendemain parce qu'ils sont sans emploi, ils n'ont pas de formation, ils traînent, ça devient violent, les frustrations, ça crée des mal-être par rapport à un environnement de corruption, de détournement de deniers publics, de gens qui ont des attitudes non seulement indécentes, mais à la limite obscènes. Il y a un noyau qui tient l'argent entre eux, famille, népotisme, machin, proche, etc. D'autres pays s'accrochaient au pouvoir dictateur, c'est-à-dire quand les pays, les dirigeants, les gouvernements n'offrent pas des opportunités à une jeunesse, c'est légitime qu'ils partent. La migration, personne ne va l'arrêter. Ça va même s'amplifier. Il faut se préparer, hein.
Et la migration, c'est justement le thème d'un nouveau livre auquel travaille actuellement Ken Bougoul. L'auteur se penche sur les causes de départ et l'impossibilité du retour pour la plupart des migrants.
Coup de projecteur.
Le Burkina Faso est en deuil après la disparition de l'un de ses grands cinéastes. Idrissa Ouédraogo s'est éteint dimanche dernier à Ouagadougou à l'âge de 64 ans, des suites d'une maladie. Son film Tilaï avait remporté en 1991 l'étalon d'or de Yenenga au FESPACO, le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Yaba et La colère des dieux font également partie de ses films les plus connus. Idrissa Ouédraogo était aussi à la tête d'une société de production, les Films de la Plaine, et avait présidé le jury du FESPACO en 2003. C'est la fin de ce numéro de Pulsation. Vous pouvez retrouver ce magazine et tous nos autres programmes sur dw.com/français dans la rubrique Médiathèque. Au revoir et à bientôt.